Voilà, donc on va aborder la suite de notre étude sur Noé. Et aujourd'hui, on va voir un texte qui est vraiment qui m'a bouleversé, parce que ça fait longtemps que je pense à ce texte d'aujourd'hui. Et en fait, hier, en préparant ce texte, j'ai été saisi par un truc que j'avais pas vu, qui est très évident, mais voilà. Donc je vais partager avec vous le fruit de tout ça. Et on va vraiment se faire du bien. En plus, aujourd'hui, c'est un temps un peu spécial. Hein. Ils ont annoncé beaucoup d'eau. Alors, ça tombe bien parce qu'on va parler du déluge. Hein. Alors, j'aurais voulu, pour l'illustration du message, qu'il tombe des trompes d'eau dehors, parce que là, on aurait été vraiment dans l'arche, au chaud, à la lumière. Mais sachez que cet après-midi, ils annoncent vraiment des trompes d'eau. Donc, vous penserez à ce message. On va prier. Notre Dieu, nous allons ouvrir ta parole. Merci pour qui tu es, ce Dieu merveilleux, ce Dieu formidable, ce Dieu qui appelle encore aujourd'hui, ce Dieu qui veut nous attirer à lui, qui nous fait naître de nouveau, qui nous régénère et qui fait de nous des enfants, des nouvelles créatures. Seigneur, merci pour cette parole. J'ai le privilège et le redoutable tâche de l'ouvrir. Seigneur, que tu puisses conduire ces moments de méditation et que tu puisses aussi ouvrir nos cœurs, nos oreilles, pour que nous puissions comprendre les merveilles de ta loi et surtout en tirer ce que nous avons à en tirer pour notre vie. Amen. Voilà, donc je vous invite à ouvrir vos Bibles, chapitres 6, 7 et 8, 7 et 8 surtout de la Genèse. Et on va aborder donc ce texte. Avec un regard tout particulier. C'est un texte qui est très connu, c'est un texte qu'on étudie à l'école du dimanche. J'ai pris volontairement cette image, vous voyez, des belles girafes, des éléphants, des rhinocéros, mais au-delà de tout ça, j'ai un petit écho là, c'est geek, hein, d'accord. Au-delà de tout ça, il y a pas mal de choses à sortir. Alors je veux faire juste un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là. On est donc dans une série d'études sur la vie de Noé. Et on a vu successivement trois choses. Premièrement, le fait que le contexte de la vie de Noé est assimilé à l'époque du retour de Jésus. C'est Jésus lui-même qui en parle dans l'évangile de Matthieu. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. On a vu aussi qu'à l'époque de Noé, l'homme était vraiment corrompu. Il y a vraiment une corruption telle que ça va déchaîner le jugement de Dieu. Dieu va détruire ces hommes qui sont corrompus de l'intérieur. C'est le même mot hébreu qui est utilisé. Et dans l'épître de Paul aux Romains, on lit que, dans Romains 1, on dit que Dieu, parce que l'homme est corrompu, Dieu les livre à leur passion. Dieu va rajouter tout ça. Donc on avait vu le contexte dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on avait vu l'obéissance de Noé. Noé fit en tout point exactement ce que Dieu lui avait ordonné. C'est-à-dire que Noé, il parle très peu dans la Bible. Il parle même pas du tout. Hein? Mais on sait qu'il obéit, il fait en tout point ce que Dieu lui demande de faire. Le troisième point, c'est Philippe qui en avait parlé la dernière fois, c'est la foi et la persévérance de Noé. C'est par la foi que Noé, divinement averti, a construit une arche. Donc Noé met en œuvre dans cette construction un certain nombre de qualités, sa foi, son intégrité, sa confiance, sa persévérance. Nous sommes dans un monde qui privilégie le succès immédiat. Et notre frère l'a dit tout à l'heure, il faut du temps entre le moment où la parole est distribuée, où la parole est ouverte, où les cœurs sont transformés. C'est une loi du royaume, c'est une loi de la nature. Les choses n'arrivent pas en un jour. Il faut du temps. Et en l'occurrence, Noé a mis un très long moment. Bon, je ne veux pas rentrer dans l'interprétation, peut-être 120 ans pour construire cette arche. Hein, et ce sont des petits pas répétés chaque jour qui font le succès final, qui font qu'à un moment donné, il pouvait dire, comme l'apôtre Paul dira à la fin de sa vie, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Mais ça, on ne peut le dire que lorsqu'on a marché quotidiennement, jour après jour, en étant fidèle à Dieu et en faisant ce que Dieu nous demande. Donc c'est un long projet, Noé, 120 ans, un projet carrément d'une vie, quoi. Ça pourrait être mis à l'échelle d'une vie pour nous. Et la clé, c'est d'être à la fois visionnaire, savoir pourquoi je le fais, et d'être laborieux au quotidien. Et c'est pour ça que tout ce que nous faisons au quotidien a son importance, parce que ça contribue à la construction du royaume de Dieu, à la construction de notre vie et à donner du sens à notre vie. Voilà ce qu'on avait vu la dernière fois, très rapidement. Alors, je voudrais revenir un petit peu sur le sens finalement de cette étude, l'importance de cette étude. Pourquoi est-ce que nous étudions ce patriarche et pourquoi nous étudions ses traits de caractère ? Eh bien, je crois qu'il y a deux choses qui caractérisent Noé. C'est que premièrement, Noé est quelqu'un qui a obtenu la faveur de l'Éternel par sa conduite, parce qu'il marchait avec Dieu. Noé est quelqu'un qui marchait avec Dieu. Et marcher avec Dieu, nous allons voir qu'une marche avec Dieu, ce n'est pas une marche qui est planifiée du début à la fin. C'est une marche où Dieu ne nous révèle pas ce que nous allons faire dans l'avenir. Dieu nous laisse dans l'incertitude, il nous demande de faire juste le pas que nous devons faire aujourd'hui. Donc c'est une marche pas à pas où Dieu va nous révéler le pas suivant après que nous ayons achevé le premier. Et marcher avec Dieu, hein, on a vu ce mot hébreu qui est exactement le même mot qui est utilisé pour décrire Dieu qui marche dans le jardin d'Éden. Donc marcher avec Dieu, c'est vraiment se calquer sur Dieu, c'est mettre ses pas dans les siens, c'est le faire selon le cœur de Dieu. Marcher avec Dieu, c'est pas simplement suivre des règles. C'est ce que les gens n'avaient pas compris, les pharisiens ne l'avaient pas compris, et nous, de nos jours, peut-être, on ne le comprend pas. C'est pour ça que Jésus est venu et a dit, vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Donc marcher avec Dieu, c'est pas suivre des règles. C'est incarner cette marche, regarder à Jésus, voir comment lui a marché, et c'est marcher dans les pas de Jésus. Parce que si on suit des règles, si la vie chrétienne c'est suivre des règles, venir au culte, lire sa Bible, etc., je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais si c'est suivre des règles, alors il arrivera un jour où vous n'allez plus pouvoir les suivre, pour X raisons. Mais si la vie de Dieu qui est en nous par Jésus-Christ, si c'est Jésus-Christ qui vit dans notre cœur, alors la marche devient différente, les circonstances extérieures n'auront plus de prise sur nous, et Noé marchait avec Dieu, Noé imitait Dieu, et c'est ça, c'est à ça que nous sommes appelés, c'est imiter Jésus. C'est pour ça que je vous encourage vraiment à fixer votre regard sur ce que fait Noé, hein. Non pas que Noé soit un homme parfait, parce que Noé pointe vers Jésus-Christ. On le verra dans la dernière étude avec David, la similitude, le lien avec le Nouveau Testament, l'Alliance, etc. Noé pointe vers Jésus. Donc si j'insiste sur Noé, ce n'est pas pour mettre Noé sur un piédestal. Noé était juste humain, vous savez qu'il s'est enivré et il a péché comme tout le monde. Mais c'est parce que Noé pointe vers Jésus-Christ, vers la sainteté de Jésus-Christ. Et donc, l'enjeu de cette étude, c'est de voir ce patriarche en action au milieu de conditions terribles qui durent. 120 ans dans une société corrompue où on se moquait de lui, où il était rejeté, il était mis à part, mis au banc. Et aujourd'hui, on va voir cet épisode du déluge, ces conditions terribles de déluge, et on va voir que Noé, il va se révéler quelqu'un d'extraordinaire dans ce déluge, sans dire un mot, sans dire un mot. Déjà, ce n'était pas une mince affaire de vivre à contre-courant de sa société. Ce n'était pas une mince affaire de construire ce bateau gigantesque. C'est énorme, hein, l'arche est énorme. Philippe en a parlé la semaine dernière. Et donc, les épreuves successives que Noé est en train de vivre, épreuves de construction et épreuves de traversée du déluge, on va voir qu'elles vont révéler son caractère. Et je vais y revenir dans quelques instants. Ce déluge que nous allons étudier, il a deux vertus pour moi. Premièrement, il va révéler et forger le caractère de Noé. Parce que Noé aura pour immense mission de faire repartir l'humanité. C'est lui qui va faire la transition entre l'ancienne humanité corrompue, détruite, et la nouvelle humanité. Noé, c'est un peu le nouvel Adam. Et c'est aussi, il pointe vers Jésus-Christ, qui a pour but, en fait, de prendre cette nouvelle création de Dieu, dont on a parlé, tous les gens qui sont nés de nouveau de tous les temps vont être à un moment donné embarqués par Jésus-Christ, qui est dans Noé la préfiguration, vers des nouveaux cieux et des nouvelles terres, parce que ce monde-là est voué à la destruction, c'est l'apôtre Pierre qui nous le dit. Donc, premièrement, il révèle et forge le caractère de Dieu, et cette histoire de Noé va nous fournir une symbolique aussi de ce que sera ce mystère caché de tous les temps, l'Église. Je vous faisais ce parallèle entre finalement l'arche qui sauve un certain nombre de personnes, et cette Église, dont nous faisons partie, l'Église universelle, mais nous sommes l'Église locale. Et donc, dans ces qualités que Noé va révéler au travers de ce déluge, eh bien, on va voir donc deux de ces qualités qu'on a déjà vues, c'est la patience et la foi. Donc, lisons le texte dans le livre de la Genèse. Alors, on va lire donc à partir de Genèse chapitre 7. On va lire à partir du verset 16 parce qu'on a déjà lu pas mal de choses. Il entra, donc Genèse chapitre 7 verset 16, il entra mâle et femelle de toute chair comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Je lis dans la version second à la colombe. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. On avait bien insisté hein, que le chapitre 6, et on verra le chapitre 8, c'est le Dieu créateur qui parle. Le chapitre 7, c'est le Dieu sauveur, Yahvé. Parce que on a affaire au salut de l'humanité. Il y a toute une symbolique sur le nom de Dieu qui est ici utilisé. C'est l'Éternel qui ferme la porte. De la même façon qu'à un moment donné, Jésus-Christ va fermer la porte de l'Église. Il va enlever les siens, il va fermer la porte. C'est Jésus qui ferme, le Sauveur. Et bien là, c'est l'Éternel, c'est Yahvé finalement. C'est Jésus présent de toute éternité. Jésus qui est la forme incarnée de l'Éternel uniquement. Verset 17. Le déluge dura sur la terre pendant 40 jours. Les eaux montèrent et emportèrent l'arche qui fut soulevée au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et montèrent énormément sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux étaient de plus en plus grosses sur la terre. Toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel furent couvertes. Les eaux couvrirent les montagnes et les dépassèrent d'une hauteur de 15 coudées. Tout ce qui se mouvait sur la terre expira, tant les oiseaux que le bétail, et les animaux, tout ce qui pullulait sur la terre et tous les êtres humains, tout ce qui était animé d'un souffle de vie dans les narines et qui était sur la terre sèche, mourut. Dieu effaça tous les êtres qui étaient à la surface de la terre. Ils furent effacés de la terre. Il ne resta que Noé et ce qui était avec lui dans l'arche. Les eaux grossirent sur la terre pendant 150 jours. Chapitre 8. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui se trouvait avec lui dans l'arche. Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses du ciel furent fermées, et la pluie cessa de tomber. Les eaux se retirèrent de la terre peu à peu, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le septième mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Arara. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le 1er du mois, les sommets des montagnes apparurent. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit et revint à plusieurs reprises, jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient baissé à la surface du sol. Mais la colombe ne trouva pas de perchoir pour ses pattes et revint à lui dans l'arche, car il y avait encore de l'eau à la surface de toute la terre. Il tendit la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours et lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui le soir, elle tenait dans son bec une feuille arrachée à un olivier. Noé sut ainsi que les eaux avaient baissé sur la terre. Il prit encore patience 7 autres jours, puis il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. L'an 601, le premier du premier mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé écarta la couverture de l'arche, il regarda, et voici que la surface du sol avait séché. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre était sèche. Alors Dieu parla à Noé en ces termes. « Sors de l'arche, toi, ta femme, tes fils et tes belles-filles. Fais sortir avec toi les animaux de tout genre qui sont avec toi, tant les oiseaux que les bêtes, et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils pullulent sur la terre, qu'ils soient féconds et se multiplient sur la terre. » Noé sortit, ainsi que ses fils, sa femme et ses belles-filles, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui rampent sur la terre selon leur genre, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Voilà. Donc, on y est. 120 ans de construction, c'est l'embarquement. Dieu fait embarquer tout le monde, et c'est l'Éternel qui ferme la porte. Et là va s'abattre sur la terre la plus effroyable des tempêtes, comme je crois la terre n'en a jamais connue. Alors vous avez certains commentateurs qui disent oui, mais en fait le déluge, c'était pas un déluge universel, c'est local, il y a eu une petite pluie, voilà. Bon, il y a toujours des arrangements. La Bible nous dit que c'était un déluge qui était universel, et puis de toute façon, il n'y a qu'à voir la géologie. Hein. Si vous vous baladez au Grand Canyon, vous allez en Australie, vous avez des traces. Hein. Donc voilà, je ne rentrerai pas dans cette polémique. Le déluge était universel, tout était recouvert. En tout cas, c'est mon interprétation. Et donc, on va voir deux caractéristiques de Noé qui vont lui permettre de traverser cette tempête et qui vont nous inspirer. Pourquoi ? Parce que nous aussi, il nous arrive, alors peut-être pas pour vous, en tout cas pour moi, il m'arrive de traverser des tempêtes. Il m'est arrivé de traverser des tempêtes. Et je sais que dans l'avenir, je vais traverser des tempêtes encore. C'est inhérent à notre vie sur Terre ici-bas. Avant d'aller plus loin, il est important de comprendre une chose. J'aimerais que ce soit vraiment un verset que vous reteniez. On va le prendre dans nos Bibles. On va ouvrir le psaume 29. Et le psaume 29, on va lire un verset qui est vraiment clé par rapport à la tempête. Et on va parler de comment la foi de Noé va être testée. Psaume 29. On va lire le verset 10. Est-ce que quelqu'un peut me lire le verset 10 du psaume 20? Pardon. Voilà. Lors du déluge, nous dit ce psaume, l'Éternel est sur son trône. C'est-à-dire que quelle que soit la taille de la tempête, et on a vu que celle-ci est énorme, hein, puisqu'elle a recouvert le mont Ararat, plusieurs kilomètres d'eau, Dieu était quand même aux commandes. Même pendant le déluge, Dieu est aux commandes. Tout ce qui se passe n'échappe pas à la volonté de Dieu. Et ça, c'est un point important à retenir. Quelle que soit la taille de la tempête, quelle que soit la durée de la tempête, parce que même pendant la construction, Dieu était avec Noé. Dieu protégeait Noé. L'Éternel est sur son trône. C'est-à-dire, ça ne sort pas des clous de Dieu, même si le truc est effroyable. Imaginez ces trompes d'eau. Quand vous regardez le Grand Canyon, vous vous dites, mais pour enlever cette masse de cailloux, il a fallu mais une puissance d'eau colossale. Des kilomètres, des millions, des milliards de mètres cubes d'eau qui ont trimballé tout ça. Eh bien, malgré ça, Dieu était sur son trône. Il était en contrôle de la moindre pierre, du moindre petit canyon qui a été creusé à ce moment-là. Hein ? Certains scientifiques pensent que les grandes fosses marines, les fosses qu'on trouve au niveau des Philippines, par exemple, qui font jusqu'à 10 km de profondeur, ben, ont été créés à ce moment-là pour justement évacuer cette masse d'eau. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Alors, pour bien comprendre l'étendue de cette tempête, il faut se souvenir des conditions de l'arche. Le gigantisme de l'arche, hein, 150 mètres, une fois et demi un terrain de foot. 25 mètres de large, 15 mètres de haut, plusieurs étages. C'est vraiment un paquebot de croisière, un peu moins haut qu'un paquebot de croisière, mais c'était énorme. On considère qu'on pouvait tenir dans l'arche l'équivalent de 125 000 moutons. Alors, pour vous donner une autre idée, c'est un des plus grands zoos du monde, le zoo de San Diego. 3000 animaux, zoo de San Diego, de 300 espèces différentes. C'est énorme. Enfin, si vous avez visité le zoo de San Diego, c'est énorme. Eh bien, l'arche de Noé, c'est 40 zoos de San Diego, dans un bateau, dans lequel il y a une fenêtre. Une fenêtre. Pas d'ampoule électrique, pas de lampe à pétrole. Une fenêtre. Et donc, un vrai muséum d'histoire naturelle. Pour la petite histoire, un éléphant, ça produit 40 kilos de déjections par jour. 40 kilos. Je ne sais pas si l'éléphant est dans l'animal pur ou impur, mais il y avait 7 couples d'animaux purs et un couple d'impurs. Donc 14 éléphants, je vous laisse faire la multiplication, hein. C'est quelques tonnes de déjections. Non mais c'est important parce qu'il n'y avait pas tout à l'égout. C'est pas comme dans les avions, on appuie sur le bouton, ça sort dehors. Là voilà, il faut imaginer les conditions de l'arche. Il n'y a pas de VMC. Pas d'élimination possible. Ben oui, il faut comprendre ça. Puis on va voir qu'ils sont restés quand même un certain moment. Et puis, il faut savoir quand même que bah, les animaux sont comme nous. À un moment donné, ça fait des bébés. On a des, voilà, on a des bébés à la garderie, mais ça fait des bébés, quoi. Alors bon, évidemment, l'éléphant, il a 2 ans de gestation. Donc avec un peu de chance, il n'y a peut-être pas eu de petit. Mais bon, une truie, c'est tous les 3 mois. Ça fait 15 petits. Voilà. Donc faut imaginer ces conditions de l'arche. Pas de VMC, beaucoup d'humidité. C'est pas le hammam de chez Nasser, hein, où il y a une bonne vapeur d'eucalyptus et tout ça. Hein, CF, les déjections d'éléphants. Bon, voilà, j'arrête là, hein, je ne vais pas vous choquer. Mais les conditions de l'arche, elles sont pas évidentes quand même. Elles sont pas évidentes, et c'est là que l'attitude de Noé, finalement, elle est remarquable. Parce que on va voir un certain nombre de caractéristiques. Qu'est-ce qui s'est passé finalement dans cette chronologie? Je vais vous détailler d'une manière différente ce qui est écrit dans la Bible pour le rendre un peu plus parlant. Alors, on va imaginer l'échelle temps ici, qui est une échelle verticale, d'accord? Voilà. Donc l'embarquement, on va dire que il se fait à J-7 par rapport à la pluie. Hein. Dieu fait monter Noé un petit peu avant parce que bah, il faut du temps pour embarquer. C'est comme des avions. Quand on embarque un A380, il y a beaucoup de monde. Voilà. Donc Noé embarque à J-1 et l'Éternel ferme la porte, le déluge démarre. Ok, ça c'est notre temps zéro. Voilà. Les pluies durent 40 jours. 40 jours de pluie pour monter au sommet de la montagne Ararat. Ok. Donc pendant ce temps, hein, l'arche, pareil, l'éléphant, les accouchements, la nourriture, parce que Noé a prévu de la nourriture, etc. Donc c'est la fin des pluies et à 150 jours, l'arche s'immobilise. Les eaux sont au top. C'est-à-dire, en fait, la pluie s'arrête, mais c'est un peu comme chez nous, quoi. Quand il pleut un moment, puis après on parle des inondations, des informations pendant une semaine, parce que l'eau, faut bien l'évacuer. Donc, à 150 jours, la Bible nous dit que les eaux sont au maximum et l'arche s'immobilise. D'accord? Donc, pendant 150 jours, hein, ça fait combien 150 jours? En mois, ça fait 5 mois. D'accord? Pendant 5 mois, dans les conditions que je vous ai décrites, Noé, il est dans l'arche et il n'a aucune nouvelle. Il n'y a pas de radio. Il n'y a pas Internet, les news, Facebook, machin. Il n'a pas ça. Il ne sait pas ce qui se passe. Il y a une fenêtre, elle est fermée. Il fait nuit dans l'arche. D'accord? L'arche s'immobilise 150 jours, mais ce n'est pas fini encore. Regardez ce qui se passe. Heureusement, là, Dieu se souvient de Noé. Mais Noé, il ne le sait pas encore. C'est nous qui le savons. Parce qu'on lit la Bible l'a écrit, Moïse l'a écrit. 73 jours plus tard, les eaux commencent à baisser, on voit le sommet des montagnes. Les gens sont toujours dans l'arche. 40 jours plus tard de ces 73 jours, Noé lâche un corbeau et il lâche la colombe. D'accord? Le corbeau, il se perd. La colombe, elle revient. Il réessaye une deuxième fois, il lâche la colombe. La colombe revient avec un rameau délié. Encore 7 jours après. D'accord? On rajoute les journées encore. Hein, les journées sont longues, hein, parce qu'il faut nourrir, les porter. 15 petits porcelets par truie en moyenne, c'est ce que les truies font. D'accord? Troisième fois, Noé lâche la colombe. D'accord? Et là, la colombe ne revient plus. 7 jours. Alors Noé, imaginez, moi si j'avais été à la place de Noé, je me dis, bon, ça y est, on en a fini, quoi. Hein, je vous rappelle que depuis 150 jours, depuis le J-150, l'arche s'immobilise. Vous savez, c'est un peu comme les TGV. Hein. TGV, quand il arrive à Lyon, les gens, 15 minutes avant, là, quand on est déjà dans les Monts d'Or, ils commencent à se lever, ils s'habillent, ils se bourrent tous à la porte. Ils se disent, comme ça, je sors le premier. Hein, au cas où il y a une grève et qu'on le laisse dans le train. Voilà. Donc, et puis, avant même que le train s'immobilise, les gens, ils appuient, là, ils sont là, sur le bouton. Alors, allez, s'ouvre la porte. Voilà. Mais Noé, c'est pas le cas. Donc, depuis J-150, l'arche est immobilisée. Noé se dit, tiens, elle est immobilisée comme mon TGV est immobilisé. Quand le TGV est immobilisé, les gens se disent, ça y est, la porte va s'ouvrir. Donc là, regardez à quelle, mais c'est pas fini encore. 37 jours après, hein, c'est, je l'invente pas, c'est dans la Bible, Noé écarte la couverture et il dit, tiens, je commence à avoir du sol. Ah, ça y est, je vais pouvoir sortir. Ben non, pas fini encore. Pour avoir le feu vert de Dieu, 8 verset 15, Dieu parla à Noé, il faut attendre encore 156 jours. Si vous voulez parler de foi et de patience, je ne sais pas s'il y a des gens qui attendent des réponses aux prières depuis une semaine, depuis un mois, depuis 6 mois, depuis 1 an, depuis 10 ans. Et c'est dur d'attendre, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que Dieu fait? Mettez-vous à la place de Noé, mettez-vous à la place de ses filles, ses belles-filles. Dieu attend, Noé attend. Regardez, le feu vert de Dieu, à quel moment il arrive? 56 jours après, Noé sort de l'arche. D'accord? Et on est à J370, plus d'un an. Plus d'un an, Noé a passé plus d'un an dans une arche où il ne voyait rien, où il y avait une promiscuité terrible, 40 eaux de San Diego. C'est ça les conditions de Noé. Et on n'entend rien, Noé ne dit rien, il ne prend pas la parole. Alors on lit ça, vroom, tiens, le déluge c'est sympa et tout, on raconte ça aux enfants à l'école du dimanche, ah ouais c'est sympa le déluge, il y a le petit bateau et tout, regardez, ils sont, c'est vraiment mignon, ils sont tous dehors, ils sont au balcon, là, vous savez, comme dans les croisières et tout, c'est vraiment sympa, là. Ils font une petite promenade sur un... Mais non, le déluge c'est pas du tout ça, c'est pas une promenade sur un lac. On est à J370, d'accord? Et là, qu'est-ce que Noé fait? Noé sort de l'arche. Moi, si j'avais été à la place de Noé, j'aurais plutôt été comme Philippe Martinez, vous voyez? Ouais, putain, j'ai passé un an dans l'arche, ça puait, oh, la promiscuité et tout. Mais c'est vrai, on aurait fait ça. Mais Dieu, qu'est-ce que tu fais, quoi? Tu me laisses un an dans l'arche? Et Noé, qu'est-ce qu'il fait? Il bâtit un hôtel à l'Éternel. Seigneur, merci. Parce que Noé a compris la finalité, il a compris la corruption humaine. Il a connu pendant 120 ans les moqueries des contemporains, mais il connaissait, il savait ce que Dieu faisait. Il avait une vision à long terme de l'œuvre de Dieu. Il comprenait ce que c'était que le salut, et il savait que lui, Noé, il était une clé dans ce salut. Et c'est ce qui lui a permis pendant 120 ans de construire un bateau. Hein, pour construire un bateau, il n'y avait pas d'arbres, donc il a commencé par planter des arbres. Vous savez combien de temps ça met un chêne pour pouvoir être exploité? Ça met plus d'une centaine d'années. Alors il l'a peut-être pas fait en chêne, mais vous imaginez maintenant, si Dieu vous dit construis une arche, vous commencez par planter un arbre. Mais est-ce que la planche, elle va pousser là au bout de deux jours? Il faut des mois et des mois, des années. Donc quand on parle de la patience de Noé, de la persévérance, de sa foi, de Noé qui marchait avec Dieu, c'est un exemple pour nous. C'est un exemple pour nous. Et regardez, 220 jours entre l'immobilisation de l'arche, c'est-à-dire, ah ça y est, on est arrivé, ça y est, la porte va s'ouvrir. Alors imaginez les gars des TGV là, qui se précipitent sur le bouton de la porte. Ben, c'est ça, hein. 220 jours entre l'immobilisation de l'arche et le feu vert de Dieu. Eh bien, je crois que quand on voit cet exemple, on se dit, mais Seigneur, enfin moi je me dis, la patience de Noé, eh ben, c'est pas rien. La patience de Noé, c'est pas rien, parce que on n'est pas sur la même échelle de temps. On n'est pas sur la même échelle de temps. Et si on veut marcher avec Dieu, il faut comprendre que l'échelle de Dieu n'est pas notre échelle. C'est une première leçon que je voudrais tirer de ce texte. Vous savez que la Bible, dans le Nouveau Testament, utilise deux mots grecs pour exprimer le temps. Vous avez le mot qu'on connaît bien, le chronos, qui a donné chronomètre, c'est le temps qui passe, c'est notre temps. Et puis il y a le kairos. Le kairos, c'est le temps de Dieu. Dans l'évangile de Jean, quand Jésus dit « mon heure n'est pas encore venue », on parle du kairos. C'est-à-dire que Jésus, il a son timing, Dieu a son timing, il a son échelle de temps. Il construit son église, il construit le ministère des Gédéons, qui a commencé dans une chambre d'hôtel il y a 120 ans, ou je ne sais plus combien à peu près, où il y a deux frères qui se sont retrouvés pour prier ensemble et qui se sont dit, tiens, si on devait distribuer la Bible, est-ce qu'il y avait 90 millions de Bibles distribuées à ce moment-là? Non, il y en avait zéro. Mais l'échelle de temps n'est pas la même. Et il faut comprendre dans notre vie que l'échelle de temps de Dieu n'est pas la nôtre, que Dieu ne répond pas tout de suite aux prières parce qu'il a un plan dans notre vie. Pour ceux qui connaissent un peu mon histoire de vie, Dieu m'a appelé donc il y a 31 ans maintenant, j'étais vétérinaire à l'époque, et dans le plan de Dieu, Dieu avait prévu autre chose pour ma vie. Il m'a fait changer plusieurs fois de métier. Voilà, ça a été incompréhensible pour moi, ça a été 30 ans, bon, mais c'est rien à côté du temps de Noé. Et je suis en train de me rendre compte maintenant juste combien la sagesse de Dieu est grande, combien je pourrais vous raconter en détail, ce serait trop long aujourd'hui, mais combien les étapes de la vie que j'ai vécue ont contribué à façonner qui je suis maintenant. Si je parle devant vous maintenant, c'est parce que Dieu a permis à un moment donné que Pierre passe par un certain nombre de choses. Quand j'étais jeune, je regardais mes chaussures, j'arrivais pas à parler, j'arrivais pas à aligner deux mots. Jamais j'aurais pu penser que je serais devant vous aujourd'hui pour parler. Mais Dieu a permis qu'il y ait eu des étapes, comme pour Noé. C'était le kairos, c'était le temps de Dieu. À un moment donné, il y a un temps marqué. La Bible nous dit « Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. » À peine mourrait-on pour un juste, mais Christ est mort au temps marqué. Parce qu'à un moment donné, Dieu a fait venir sur terre un sauveur. Mais pas du tout comme les gens l'attendaient. Parce que c'est ça le temps de Dieu. Dieu n'a pas la même échelle de temps. Si je veux appliquer un texte du Nouveau Testament à Noé, à cette histoire, eh bien c'est ça. C'est ce texte de 1 Corinthiens 10. Toutes les épreuves, les tentations qui vous sont arrivées sont communes à tout le monde, mais Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous alliez trop loin. Noé a traversé cette épreuve, il y est arrivé. D'accord ? Il y est arrivé. Alors, ça serait trop long, mais combien de gens ont attendu dans la Bible ? Il y a eu des attentes énormes. Il a fallu 7 jours et 7 fois le tour des murailles de Jéricho pour que les murailles tombent. Le vieux Siméon qui accueille le Jésus, il a attendu toute sa vie, il avait eu cette révélation qu'il verrait le Sauveur. David a attendu combien de temps avant d'être couronné roi? Abraham a attendu combien de temps avant d'avoir son enfant, etc., etc. Donc Noé est une préfiguration de ce qui se passe. Même Jésus, pour faire son ministère de 3 ans, il a attendu 30 ans. Il a dû naître comme un petit enfant, il a dû grandir en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes, pour à un moment donné arriver là où il est. Et la patience du Christ, c'est vraiment cette patience-là, ce temps de Dieu. Jésus, son heure n'était pas encore venue. Plusieurs fois dans l'évangile de Jean, son heure n'était pas encore venue. Et à un moment donné, Jean 17, la prière sacerdotale, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils pour que ton Fils te glorifie, afin que tu lui aies donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Père, l'heure est venue. » À un moment donné, c'était l'heure de Dieu. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, quand il écrit aux Thessaloniciens, en 2 Thessaloniciens 3:5, il prie « Que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu et la patience de Christ. » Noé est un préfigurateur de la patience de Christ. Il est aussi un préfigurateur de la patience de Dieu. Parce que Dieu a été patient pendant 120 ans. Il a donné l'occasion aux hommes de se repentir. Comme aujourd'hui, Dieu est encore patient. Parce qu'aujourd'hui est encore un jour de grâce. Aujourd'hui, on peut encore donner sa vie à Jésus. On peut naître de nouveau encore aujourd'hui. Si aujourd'hui, toi mon frère ou toi ma sœur, tu n'es pas né de nouveau, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, c'est encore le temps aujourd'hui. Parce que la patience de Dieu se prolonge encore aujourd'hui. Et il y a un jour où la patience de Dieu va s'arrêter. Et ça sera le retour de Jésus. Comme à un moment donné, la patience de Dieu s'est arrêtée. Dieu a fait monter les gens dans l'arche, il a fermé la porte, et là, la première goutte est tombée. Et il y en a des milliards et des milliards et des milliards qui ont suivi après. Donc le déluge nous montre tout ça. Mais le déluge a aussi une autre vertu. Je voudrais partager ce verset de Romains 3 qui m'a beaucoup parlé dans ma propre vie, parce que pour arriver là où je suis aujourd'hui, il a fallu des mois et des mois de patience, il a des jours de pleurs, de doutes, d'incertitudes, et ça continue encore, parce que j'ai parfois du mal, je suis rétif, rebelle, j'ai du mal à voir la volonté de Dieu. Mais ce verset de Romains 3 est très important à comprendre. Romains 5 commence par « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix par Dieu, avec Dieu, par Jésus-Christ. » C'est ça le début de Romains 5. Et voilà ce que Paul écrit. « Nous tirons fierté de nos détresses. Noé a été mis au creuset. Pendant 120 ans, il a exercé sa patience, sa foi, sa confiance en Dieu, sa persévérance. Il était sur cette terre. Et là, sa foi va être testée. Pendant un an, il va rentrer dans l'arche, il va traverser. Que va devenir Noé pendant cette année? Comment est-ce qu'il va en ressortir? Pendant un an de conditions terribles, de pluie, de promiscuité dans l'arche, Comment est-ce que Noé va en sortir? Il sort vainqueur. Et c'est ce que nous dit ce texte. Quand on regarde les significations, hein, je ne vais pas faire d'exégèse et ça mériterait pratiquement un message là-dessus, mais très rapidement, il y a quatre points importants. Premièrement, la détresse, d'accord? La détresse, vous la connaissez. Chacun de nous, ici, a vécu ou est en train de vivre des temps de détresse. C'est l'affliction, la tribulation, l'épreuve, le trouble, c'est des mots qu'on trouve fréquemment dans le Nouveau Testament. La détresse. Comment tirer fierté de la détresse? Parce que la détresse, c'est juste un moyen pour Dieu de révéler qui on est. Si dans la détresse on chute, notre force n'est que faiblesse. C'est un proverbe qui le dit. Ça me revient, ça. J'ai pu penser à ce texte. Si tu tombes au moment de la détresse, ta force n'est que faiblesse. Comment est-ce qu'on va transformer cette détresse en victoire? Eh bien, c'est la persévérance. C'est l'endurance. C'est s'accrocher tous les jours. S'accrocher à la parole de Dieu. Se dire que Dieu, il a un plan. Que ce qui m'arrive aujourd'hui, ça fait partie d'un plan de Dieu pour plus tard. Dieu est en train de tester ma foi. Il est en train de tester si je suis vraiment attaché à lui ou pas. Comme Abraham, il l'envoie au mont Morija. Il lui donne un fils et ensuite il lui dit « Va sacrifier ton fils ». Dieu met Abraham à l'épreuve, comme Dieu nous met à l'épreuve, comme Dieu a mis Noé à l'épreuve. Il va tester pour savoir si on va sortir ou pas du creuset. C'est la persévérance. D'accord? C'est la persévérance. Et puis, au-delà de cette persévérance, il y a un troisième mot, qui est le mot « dokimé » en grec. D'accord? Qui se traduit par « victoire dans l'épreuve ». Mais en fait, le mot qui est utilisé ici, c'est le mot, les anglo-saxons traduisent « character ». Dans les Bibles anglaises, c'est le mot « character ». C'est-à-dire, c'est vraiment c'est l'âme d'un être humain qui est passé par un test et qui a été trouvé vainqueur. C'est un peu la signification du mot « Israël », « Jacob ». Jacob, ça signifie « celui qui lutte avec Dieu et qui en est sorti vainqueur ». Eh bien, c'est ça. La victoire dans l'épreuve, c'est la victoire d'un caractère qui a été endurant et qui a été trouvé vainqueur, qui a réussi. En fait, c'est un test. Pourquoi Paul dit qu'il tire fierté de ses détresses? Parce que la détresse, c'est juste un moyen de savoir si la personne a le caractère suffisant ou s'il faut aller travailler son caractère. Donc, la victoire dans l'épreuve, c'est quelqu'un qui a réussi. Il a satisfait aux exigences du test. Aujourd'hui, on vit dans un milieu de normes. Les voitures, pour être commercialisées, elles passent par un crash test. D'accord? Il faut avoir des étoiles. 4 étoiles, 5 étoiles. Donc, on les balance contre les murs. Pourquoi? Pour juste faire réussir tout ça. Eh bien, c'est exactement ça. La détresse permet d'exercer la persévérance. C'est un terrain d'entraînement, finalement, pour que le jour de la compétition, le jour du match, on soit trouvé vainqueur. Pourquoi les tennismans font des heures et des heures d'entraînement? Parce que le jour J, il faut gagner. Eh bien, Dieu, c'est ça. Dieu permet dans notre vie des temps de détresse, affliction, épreuve, pression, tribulation, ce que vous voulez, pour tester. Et la victoire dans l'épreuve, la dernière étape, c'est l'espérance. L'espérance est toujours associée à la joie. Parce que quand on a traversé cette épreuve, on connaît la joie. Et pourquoi Noé peut offrir un sacrifice à Dieu? Parce qu'il est content d'avoir traversé l'épreuve. Il est plus, il n'a pas le point vengeur, il n'a pas, pendant cette année dans l'arche, il n'a pas maugré contre Dieu, parce qu'il avait confiance dans son Dieu, il savait ce que Dieu faisait. Et la seule chose qu'il a envie de faire quand il sort, c'est remercier Dieu et c'est lui offrir un sacrifice. C'est un espèce de cercle vertueux. La détresse produit la persévérance nous permet de tester qui on est. On remporte la victoire, ça nous donne de la joie et on est prêt pour autre chose. Alors ça ne va pas durer tout le temps ça, ça va durer juste le temps d'une vie, le temps que Jésus revienne. Et là-haut, il n'y aura plus de deuil, plus de larmes, plus de détresse, plus rien du tout. Voilà mes frères et sœurs. Donc, voilà ce que nous apprend cette histoire de Noé, qui a été vainqueur au travers du déluge. Et pour conclure, j'aimerais vous laisser trois questions. Trois questions, et j'aimerais vous lancer un défi aussi dans cette étude de Noé. C'est qui a envie ici de sortir de cette série d'études de Noé avec l'envie d'être différent, de faire quelque chose de nouveau, de différent, de changer sa vie, de changer sa routine, de réagir différemment dans les épreuves, dans les afflictions, dans Moi, je dis oui. Qui a envie de prendre ce défi? Levez la main. Qui a envie de prendre ce défi? Je ne vous engage pas, mais si vous, vraiment, si vous êtes ancré dans la parole, vous pouvez changer quelque chose dans notre vie. Vous pouvez avancer un pas de plus avec le Seigneur. Alors, trois questions que je vous laisse. Premièrement, quelle est la qualité de Noé que j'ai besoin de développer le plus? Pour moi, c'est la patience. Et c'est ce que Dieu travaille avec moi depuis des années. C'est la patience. Les choses ne viennent pas en une fois. Notre frère l'a dit tout à l'heure, il faut du temps pour que le Nouveau Testament produise ses fruits. Il faut du temps pour faire un chêne. Il faut du temps pour qu'une graine plantée dans la terre puisse produire quelque chose. Donc c'est une loi de la nature, la patience. Quelle qualité est-ce que vous avez besoin de développer? Posez-vous la question. Dans le test que vous, moi, qu'on est en train de passer, est-ce que je suis capable de discerner le kairos de Dieu? Est-ce que je suis capable de me dire ce qui m'arrive maintenant, ce que j'ai vécu il y a 5 ans, ce que je vais vivre demain, ça fait partie du plan de Dieu pour exercer une qualité que Jésus veut construire chez moi pour m'amener à la ressemblance de Christ? Ou inversement, est-ce que je vais être dans mon chronos à m'impatienter, à appuyer sur la porte du TGV pour que la porte s'ouvre plus vite? Je peux vous dire que moi, je suis souvent dans le 2. Je suis là à m'impatienter, à me lamenter, à dire « Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais ?» Et je dois être repris, et j'ai vraiment été repris par ce texte, en regardant l'exemple de Noé, parce que j'ai besoin de discerner le kairos de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait là en ce moment? Et ça, c'est au travers de la parole de Dieu, au travers de l'interprétation des circonstances, au travers du partage avec des frères et sœurs, avec qui on peut partager sa détresse et ses afflictions, qui peuvent nous aider à avoir un regard différent sur ce qu'on est en train de vivre. Et troisième question, quel exemple est-ce que je peux tirer de ma propre vie et que je peux partager avec les autres? Je ne sais pas si ce que j'ai courtement parlé de la mienne de vie, et si vous voulez avoir plus de détails, je peux en parler avec vous, mais Dieu est en train de faire une œuvre dans ma vie qui est unique. Pas parce que c'est moi, parce que juste je suis un enfant de Dieu, qu'il a une destinée unique pour ma vie et qu'il a une destinée unique pour chacune de vos vies. Vous n'êtes pas là par hasard, Dieu ne vous a pas sauvé pour être juste, frotter des bancs d'église le dimanche matin, c'est pour servir qu'il vous a sauvé. Certains servent chez les Gédéons, certains servent en prêchant la parole de Dieu, d'autres servent en évangélisant, d'autres servent en aidant Erika à déménager. Chacun a un plan dans sa vie et chacun sert le Seigneur avec ce que le Seigneur lui a donné. Voilà, donc je vous laisse là-dessus, sur ces trois questions. Et si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, posez-vous ces questions, parce qu'elles vont vous aider à avancer. Et gardez les yeux fixés sur Noé, qui est un préfigurateur de Jésus-Christ. Voilà, donc on a fini ce passage. La prochaine fois, c'est Jérémie qui nous conduira donc dans l'avant-dernière méditation sur comment soumettre totalement sa vie à Dieu, pour obtenir la faveur de l'Éternel. C'est ce que Noé a fait. Il a soumis sa vie à Dieu pour obtenir la faveur de l'Éternel. Ça va impliquer de marcher à contre-courant de la société, de paraître insensé en refusant de chercher la faveur des hommes et en recherchant la faveur de Dieu. Puis c'est David qui conclura cette série sur Noé et l'alliance de Dieu avec les hommes. En quoi Noé pointe sur Jésus-Christ, en quoi l'arche est un symbole de l'œuvre de Jésus-Christ et de l'Église. Voilà, plein de bonnes choses pour l'avenir, et je vous souhaite en tout cas un bon dimanche. N'oubliez pas vos parapluies, mais ça n'ira pas jusqu'au déluge.